Désolé de ne pas m'être connecté un peu plus tôt. Deux choses, j'ai eu un petit problème technique. Donc ça m'a pris 5 minutes. J'ai redémarré, redémarré, redémarré. Donc content que ça fonctionne maintenant. Et puis j'avais un petit traitement ce matin. Mon traitement habituel qui sert simplement à irriguer ce qu'on appelle un porte-à-cap que j'ai ici encore depuis la chimiothérapie. Bonjour Tchépé. Bonjour Daniel, bonjour Max, bonjour Naomi. Naomi. Il y a deux autres personnes qui sont connectées, mais je ne les vois pas, désolé. Vous pourrez lire sur mon petit rendez-vous de ce matin, sur ma page personnelle. J'ai fait un petit post là-dessus. Bonjour Guy. Rebonjour la belle-mère. Bonjour Almac. Bonjour Babette. Bonjour Farley. Bonjour Marie-André. Bonjour Sylvie. Bonjour Ramon, bonjour Edwin, bien sûr à vos épouses respectives, donc Evelyne du côté de Ramon, Heidi du côté d'Edwin, bonjour Nini, ça c'est Nenji, tu dois saluer mon ami Jacques. Daphné, je ne la vois pas. En fait, je ne la vois pas, mais je sais qu'elle n'est pas ici à la maison. Elle est au travail, donc je ne sais pas si elle est connectée actuellement. Mais sinon, assurément, je lui transmettrai vos salutations. Je prends tout le temps mon rendez-vous à la clinique. Le matin très tôt, donc je dépose Daphné au travail, je reviens dans l'ouest pour aller au CLSC directement pour 7 heures. Donc en général, je suis le premier et puis ça dure peut-être une vingtaine de minutes. Ça a été un peu plus long aujourd'hui pour ce que vous pourrez lire dans ma publication que j'ai fait à ce sujet-là. Mais en général, je suis tout le temps de retour pour la bénédiction matinale. Bonjour la sœur Susanna. Bonjour à Denise et à Gérard. Bonjour à l'autre Denise. Vous êtes toutes les deux qui vous êtes connectées pratiquement en même temps. Donc, bienvenue aux deux Denise. Alors, on va prier pour débuter ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, pour que nous puissions plonger nos regards dans ta parole et être nourris par elle. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, notre pensée, que tu viennes bousculer peut-être des idées préconçues, des choses qu'on a arrêtées dans notre pensée et que tu veux modifier, transformer ou pousser plus loin. Donc, on te permet, Seigneur, d'intervenir comme tu le désires, d'agir comme il te plaira. Et surtout, Seigneur, de faire les transformations qui se doivent dans nos vies. Que ta grâce soit accordée à ma sœur, à mon frère, que ta bénédiction reste et demeure sur chacun d'eux, et qu'à toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous Ésaïe 61, les deux premiers versets, ou le premier verset et la première phrase du deuxième verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Je répète ce verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et cette semaine, on étudie la première phrase du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Alors, encore une fois, bienvenue à tous pour cette méditation du jeudi 7 janvier 2021. Cette semaine, on a donc débuté un parcours de 50 jours où on étudie ce texte durant la semaine et durant le week-end, le dimanche. On étudie le texte qui a été repris par Jésus dans le livre des Actes, plutôt de Luc, je m'excuse. J'étais en train de lire une référence. Donc, dans le livre de Luc au chapitre 4. Mais durant le week-end, donc, on prend la version originelle que Jésus va reprendre et on l'étudie dans sa version donc hébraïque du terme. On a vu lundi que l'Esprit, le Ruach de Dieu, son souffle de vie qu'il veut mettre en chacun d'entre nous, cette inspiration pour notre existence. On a vu mardi le terme Adonai, Seigneur, qui parle de cette propension à la révérence qu'on doit avoir envers notre Seigneur. Combien on doit avoir ce respect, cette crainte, cette révérence envers Dieu. Mercredi, on a parlé de Jéhovah, l'Éternel, celui qui existe, le seul qui existe, celui qui suffit à sa propre existence, celui par qui tout existe, celui qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Et il va dire donc l'Esprit du Seigneur l'Éternel, le Ruach de Adonai, qui est Jéhovah, est sur moi. Ce que je dois vous dire, c'est que dans la version hébraïque, le « est sur moi », le groupe nominal « est sur moi » est supposé, dans le sens où il n'est pas textuellement écrit. En raison de la suite du verset et de cette toute première phrase, on comprend que ça veut dire effectivement que l'Esprit de Dieu est sur nous. Mais lorsque vous lisez le texte dans sa version originelle, vous trouveriez plutôt l'Esprit du Seigneur et on passerait par la suite l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Donc, le « est sur moi » est présumé et compris toutefois dans sa version transmise de génération en génération. Et voilà pourquoi lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, effectivement, lorsque Jésus va lire le texte, il va le lire avec ce groupe nominal « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et on aura l'occasion donc de voir dans la version grecque toutes les distinctions qu'on peut faire donc ce dimanche. C'est quand même important de savoir que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ça veut dire quoi? On pourrait avoir plusieurs lectures de ce groupe nominal, plusieurs raisons qui expliqueraient ce qui veut être dit par Dieu là-dessus. Et j'espère qu'on va un peu les couvrir tous avec cinq choses qui sont impliquées dans le « est sur moi ». Le premier point, c'est qu'effectivement, on peut parler de l'onction qui est sur moi. Donc Jésus, qui reprenant ce texte, ou Ésaïe parlant du Messie, ou Dieu parlant aussi de chacun d'entre nous en tant que représentant du royaume de Dieu et en tant que récipiendaire de l'Esprit de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit, nous pourrions effectivement dire « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, sur moi » et ça serait l'attestation d'une onction. Certains voient dans ce texte Jésus ou le Messie qui annonce publiquement comme quoi ils sont récipiendaires de l'onction de Dieu. Et ce n'est pas faux. C'est totalement juste parce qu'effectivement, la Bible nous dit qu'en Christ habitait toute la plénitude même de Dieu. Et que de surcroît, si on veut l'appliquer à nous, puisque nous sommes demeure du Saint-Esprit, donc l'onction du Saint-Esprit coule aussi à travers nous. La chose merveilleuse, c'est de savoir qu'effectivement, Dieu veut déverser sur toi et sur moi son onction. Ça veut donc dire que le travail qu'on va voir à travers les prochaines semaines, puisqu'il nous dit dans les versets qui suivent, « Car l'Éternel m'a oint pour porter », le terme « oindre » qui veut dire « placer une onction », qui veut dire « mandater pour une chose ». Ça veut donc dire qu'effectivement, Dieu ne nous laisse pas aller sans avoir l'onction, la touche qui provient de lui directement pour faire son travail. Donc, gloire à Dieu, le Seigneur ne te laisse pas partir à l'œuvre sans t'équiper. Et ça, c'est une chose qui doit te rassurer. Il y a des gens qui craignent toujours, « Ah, je ne suis pas assez prêt » ou « J'ai peur de ne pas avoir ce que ça prend. » Humainement parlant, tu ne seras jamais assez prêt. Humainement parlant, tu n'auras pas suffisamment de par toi-même ce qui est nécessaire pour servir Dieu. En partant, servir Dieu est le plus haut des offices qui seraient confiés à un homme et aucun d'entre nous n'en est digne, aucun d'entre nous ne le mérite, aucun d'entre nous n'est apte à faire ce travail par ses aptitudes personnelles ou par ses connaissances personnelles ou par ses acquis personnels. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, est dû à la grâce même de Dieu. Donc oui, on atteste d'une onction. De surcroît à cela, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi », on parle de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, donc celui qui domine et qui crée toutes choses. De surcroît à l'onction, certains y verraient une marque d'autorité. Donc, une proclamation de l'autorité de Dieu à travers le serviteur que Jésus était, à travers le serviteur que nous sommes aussi de tous les jours. Et là encore, ce n'est pas faux. Lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous donne aussi le pouvoir de marcher sur le lionceau, sur l'aspic, sur le lion et sur le dragon. Comme on l'a vu dans le psaume 91 qu'on a étudié encore la semaine dernière. Donc effectivement, nous avons non seulement l'onction de Dieu, mais nous avons aussi l'autorité de Dieu. Et voilà pourquoi lorsque David, et on se réfère souvent à lui, se présente devant Goliath, il va dire « Toi tu viens avec ta lance et avec ton javelot, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. » Donc je viens avec l'autorité qui émane de l'Éternel des armées. C'est comme si cette autorité nous est gracieusement conférée lorsque nous venons au service de Dieu. Donc assurément, oui, il y a l'onction et assurément, il y a une autorité. Ça veut donc dire que non seulement Dieu te donne le talent pour accomplir une œuvre, mais Dieu te donne aussi la justification et l'autorité, le pouvoir pour faire cette œuvre. C'est un peu comme un policier qui ferait la circulation. Un être humain qui veut s'amuser à faire la circulation en plein après-midi, lorsqu'il y a de l'embouteillage, c'est une gracieuseté de sa part, c'est une gentillesse peut-être de sa part, mais il n'a en lui aucune autorité qui lui a été déversée ou déléguée plutôt pour exercer ce pouvoir. Alors que lorsqu'un policier se présente à une intersection, on voit l'uniforme qu'il porte. Au besoin, on regarde le badge ou l'écusson qu'il porte et on sait qu'effectivement, l'autorité pour bloquer une rue lui a été donnée. L'autorité pour dire au conducteur de s'arrêter puis de redémarrer, de tourner dans une direction, c'est une autorité qui lui a été conférée. Et à ce même titre, nous avons aussi une autorité qui nous est conférée. Lorsque nous comprenons le rôle d'ambassadeur pour Christ, ambassadeur pour le royaume de Dieu que nous sommes, nous comprenons aussi qu'un ambassadeur a des droits sur l'endroit qu'est l'ambassade, sur l'endroit qu'est le consulat. Et tout endroit que la plante de notre pied foule, le Seigneur nous l'accorde, le Seigneur nous le donne, et nous devons maintenant vivre avec, en sachant que nous avons une autorité, autorité sur toutes les dominations, sur toutes les principautés, sur tous les royaumes qui étaient là établis avant nous. Mais lorsque nous posons le pied dans un endroit, c'est aussi l'autorité qui émane de Dieu, qui se déverse en chacun d'entre nous. Donc oui, on a raison de dire que lorsqu'on lit ce texte, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, qu'il parle effectivement de l'onction, de l'autorité, mais il parle aussi du mandat. Onction, c'est être capable de faire la chose. Autorité, c'est avoir le droit de faire la chose. Le mandat, ben, c'est avoir la directive, avoir les paramètres de l'œuvre à laquelle nous sommes attachés. Donc effectivement, lorsque l'Esprit du Seigneur est sur moi, il y a aussi, et il dit, car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles, il m'a envoyé pour faire telle chose, il m'a envoyé pour faire telle chose. Donc nous avons non seulement l'onction, nous avons l'autorité et nous avons le mandat. Et c'est peut-être un endroit où les gens se méprennent. Il est important de s'arrêter, de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De s'interroger à savoir quelles sont les directives précises que Dieu a pour nous. Et voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans la critique du service que quelqu'un d'autre offre, particulièrement dans ces temps où il semble y avoir des clivages entre les différents services. Prendre une gorgée. J'avais un chat dans la gorge qui m'achale depuis tout à l'heure. Désolé. On va espérer qu'il est parti. Donc, lorsqu'on parle des différents serviteurs, je ne veux pas rentrer dans ce jeu des clivages, puis dans ce jeu des critiques des uns et des autres, sachant que le mandat que moi j'ai reçu peut être différent de celui que mon voisin a reçu. Il y a des choses qui se font assurément qu'on peut appuyer par la parole de Dieu. Il y a des choses qui se font aussi actuellement qui sont assurément décriées par la parole de Dieu. Donc quand c'est clair, effectivement, là on peut prendre position. Mais dans d'autres cas, je suppose que il est de règle d'avoir une position un peu plus mesurée et avant de critiquer un serviteur de Dieu, de chercher pour soi-même quel est le mandat et on va se rendre compte que le mandat que nous recevons n'est assurément pas le même mandat que quelqu'un d'autre reçoit. Donc, savoir prier, intercéder pour demander au Seigneur quelles sont les limites de l'œuvre à laquelle tu veux que je m'attable, quelles sont les limites du champ dans lequel tu veux que je travaille, parce que tu pourrais déborder tes limites et commencer à travailler dans le champ du voisin, ou tu pourrais déborder tes limites et commencer à travailler sur la voie passante, tu pourrais dépasser tes limites et essayer de bêcher la terre alors que tu es rendu les deux pieds dans l'eau au bord de la plage. Donc il est important de savoir quels sont les paramètres, les limites du mandat que Dieu nous a accordé. Mais j'aimerais vous amener probablement cette phrase de l'Esprit du Seigneur est sur moi sur deux autres aspects qu'on oublie régulièrement. Donc oui, l'onction, oui, l'autorité, oui, le mandat. Mais lorsqu'il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, il est en train de dire que l'Esprit, donc la vie de Dieu, la vie du Seigneur Adonai, le propriétaire, le Seigneur, le juge, le chef militaire, le général, le capitaine, le père, le chef du clan. Ça, c'est différentes choses qu'on a vues dans notre étude de mardi. Donc, l'esprit de Adonai, l'esprit de celui qui connaît toutes choses, qui crée toutes choses et qui domine toutes choses, l'éternel Yahweh, est sur moi. Et là, il ne dit pas qu'elle est en lui, elle dit, elle est sur moi, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et ici, ce est sur moi a aussi une connotation de soumission à Adonai. Trop régulièrement, on se met à travailler pour Dieu et on se prend pour des égaux avec Christ. C'est vrai, la Bible nous dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ, que nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais ce n'est pas parce que nous sommes co-héritiers avec Christ que l'héritage est le même d'un enfant à l'autre, que l'héritage est le même entre Christ et nous. Comprenons une chose, Christ, c'est Dieu fait homme. Il est totalement Dieu, il est totalement Seigneur. Et même s'il collabore avec nous à son œuvre, pas la nôtre, mais à son œuvre à lui, ne nous mettons pas au même rang que Jésus. Paul va dire, n'ayez pas une trop haute estime de vous-même, une trop haute opinion de vous-même. Et je pense que c'est la notion qu'il nous faut reprendre ici lorsqu'il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ça veut donc dire que l'Esprit du Dieu Adonai est sur moi. Et ce n'est pas à ce moment-là une manifestation de fierté. Ce n'est pas cette manifestation d'orgueil que certains peuvent y voir. Et là, quand je parle d'orgueil, je parle de fierté dans le bon sens du terme, sans tomber dans l'orgueil que Dieu réprime, mais tout simplement dans une estime normale, correcte de soi. Peut-être que est sur moi ne veut pas nécessairement parler de ça. Je crois que le est sur moi, c'est cette idée que moi, l'infime que je suis, moi l'infâme, aussi racheté que je suis, moi le pécheur reconditionné que je suis, moi le racheté ad vitam aeternam que je suis, j'ai l'autorité de Dieu sur ma vie, mais quant à moi étant soumis à Dieu. Donc lorsque Jésus va proclamer l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus est en train de dire aussi combien il est soumis à la volonté céleste de Dieu. Un peu comme lorsque Jésus va être dans le jardin de Gethsémané le soir de son arrestation et qu'il est en train d'intercéder, il va dire dans sa prière, Père, si tu voulais ôter de mes lèvres cette coupe, mais qu'en toute chose, ta volonté soit faite. Ça veut dire que Jésus, le Seigneur rendu serviteur, est soumis à la volonté céleste. Lui, en tant que 100% humain, se soumet à la volonté céleste. Et quand nous servons au-delà de l'onction, au-delà de l'autorité qui nous serait conférée, au-delà du mandat si prestigieux qui pourrait nous être conféré, nous ne devons pas oublier que nous sommes des serviteurs de Adonai, que nous sommes, toi et moi, des serviteurs soumis au Seigneur des Seigneurs, que nous sommes des bas gradés par rapport au général qu'est Adonai. On a le frère Alex qui est connecté aujourd'hui et qui est militaire de carrière. Et il pourrait effectivement vous expliquer que un sous-gradé ne peut pas donner des ordres à un gradé, à un supérieur. Le sous-gradé reçoit ses ordres d'un supérieur et c'est pas l'inverse. Et très régulièrement, nous voulons imposer à Dieu par nos pratiques, par notre façon d'être, par notre façon de faire, nous voulons imposer à Dieu notre volonté. Où nous nous élevons pratiquement à être des demi-dieux, voire à être des dieux à part entière avec l'arrogance qui peut émaner de nous. Lorsque Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il y a toute cette notion d'humilité. Moi, je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Et cette phrase peut tellement être galvaudée, cette phrase peut tellement être tournée dans un autre sens. Apprenons une chose, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc cette phrase à la base ne peut pas être signe d'orgueil. Alors il faut donc que l'attitude que nous témoignons en disant cette phrase, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il doit y avoir cette attitude d'humilité. Vous comprenez que quand nous commençons à servir Dieu, nous servons le Créateur de toutes choses. Hier, on a vu qu'il était le Créateur de toutes choses. On revient à Yéhovah, ce Créateur de toutes choses, celui qui est partout, en tout temps, en tout lieu, qui connaît toutes choses, qui a une sagesse étendue, qui dépasse tous les sages de cette terre. Il connaît parfaitement, totalement, toutes choses. Et malgré tout, le petit individu que je suis, la petite personne que tu es, Dieu lui accorde un mandat, Dieu lui accorde une onction, Dieu lui accorde une autorité. Ça devrait non pas nous élever, mais ça devrait nous ramener dans un état de profonde soumission et de profonde humilité. Je vous dis souvent que lorsque je m'arrête à penser à la grandeur de Dieu, la réaction humaine que j'aurais envie de manifester, c'est de m'étaler au sol, puis de dire « Seigneur, je ne veux même pas lever le regard ». Si je me rappelle bien, c'est dans Ésaïe au chapitre 4 ou 6. Je tourne simplement pour ne pas vous... Le chapitre 6 d'Ésaïe qui nous parle de ces archanges qui sont autour de la présence de Dieu, qui ont trois ailes. Et vous vous rappelez, il y a une paire, hein, qui ont trois paires d'ailes. Donc une paire d'ailes qui permet de voler, une paire d'ailes qui cache les pieds, qui sont habituellement dans la tradition juive considérés comme l'endroit qui se souille le plus facilement. Et après ça, ils ont une paire d'ailes par lequel ils se cachent le visage pour ne pas regarder Dieu tellement il est saint. Donc il y a cette humilité dans ces archanges qui sont des chefs dans l'armée céleste, qui sont des hauts gradés dans l'armée céleste, et ils se cachent les yeux, sachant qu'ils sont indignes de regarder Dieu. Nous devrions avoir cette même attitude. Seigneur, je ne suis pas digne d'être en ta présence. Seigneur, je ne suis pas digne de te servir. Je vais te servir du mieux que je peux, mais Seigneur, je ne peux même pas comprendre que tu prennes un vase si vil que moi. Et c'est un honneur que Dieu nous fait de nous utiliser, lui le Créateur de l'univers. Alors, qu'est-ce que ça suscite chez toi de servir Dieu? Il y a des gens que ça suscite de péter les bretelles en bon québécois, d'avoir la tête montgolfière qui gonfle et ils ne portent plus sur terre. Et ils deviennent arrogants, ils deviennent violents par leurs propos, ils deviennent durs et méchants par cette soi-disant autorité que Dieu leur a donnée. L'autorité qui émanait de Jésus était malgré tout une autorité remplie de compassion, rempli de douceur. Jésus va pleurer concernant la famille de Lazare qui est dans le deuil au décès de Lazare. Jésus va verser des larmes sur Jérusalem qu'il voit comme un troupeau sans berger. Jésus va être ému lorsqu'il va voir cette femme qui s'apprête à aller enterrer son enfant. Jésus a plein de moments va être ému par ce qui se passe. Tu ne peux pas être ému si tu es arrogant. Tu ne peux pas être ému si tu es imbu de toi-même. Tu ne peux pas être ému si tu es orgueilleux. Donc ici, je vous invite à prendre l'Esprit du Seigneur et sur moi comme une leçon aussi d'humilité. Je ne mérite pas cette chose-là. Je le proclame, je le dis que l'Esprit du Seigneur est sur moi, mais ce faisant, je proclame que je suis juste le serviteur. Je suis simplement au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi, enfin pourrait être aussi regardé comme une attestation de la vocation qui a été mise sur moi. Et vous savez qu'une vocation, on ne le cherche pas. Une habileté, on peut la développer, un talent, on peut le développer. Une vocation, c'est plus fort que nous. J'échangeais avec une amie qui a travaillé pendant un certain temps en politique, qui a été une élue ici dans la ville de Montréal, et on parlait des politiciens actuellement, et je lui disais, moi j'ai autrefois voulu être un politicien. Étant plus jeune, je me destinais à une carrière en politique, et je lui disais, ma pensée du politicien encore aujourd'hui est qu'un politicien devrait aller en politique par vocation, pas par simple approche carriériste. Il y a des métiers comme ça qui devraient être des vocations. Je suis convaincu que vous avez tous connu des profs qui étaient là par vocation et des profs qui étaient là parce que ils avaient abouti à être professeur. Il y a une différence entre un professeur qui enseigne par vocation et un professeur qui enseigne tout simplement parce que j'ai pas pu faire autre chose, mais je voulais faire autre chose. Il y a une grosse différence. Et je vous dis, lorsque vous rencontrez un professeur qui enseigne par vocation, ça marque la différence dans votre vie. J'ai une dame en particulier, Madame Marc, une prof de français que j'ai eue au lycée en France, qui a marqué ma façon d'étudier, qui a marqué ma façon de lire, qui a marqué ma façon d'interpréter des textes et qui me servent encore aujourd'hui. Mais cette dame, Madame Marc, a eu cet impact sur moi parce qu'elle enseignait par vocation. Lorsqu'on dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi », il parle aussi d'une vocation. Ça va au-delà de ce que tu peux décider, ça va au-delà de ce que tu pourrais désirer. C'est comme quelque chose qui a été insufflé en toi, qui a été placé en toi, et tu n'as d'autre choix que de faire la chose. Alors tu n'en tires pas orgueil, c'est simplement, regarde, c'est la grâce de Dieu. Il me voulait là tout simplement, mais je ne mérite pas une vocation. Tu ne la mérites pas, elle est là tout simplement. Donc, rappelons-nous, alors que nous débutons cette année, alors que nous allons parler à travers les prochaines semaines de différents prodiges, de différentes fonctions qu'on est appelé à accomplir, rappelons-nous que peu importe ce que nous faisons, ce doit être fait, ça doit être fait plutôt, avec humilité profonde, avec un désir de se rapetisser devant la splendeur et la gloire de Dieu. N'est-ce pas Jean-Baptiste lui-même qui disait « Il faut que moi je diminue pour que lui soit élevé. » Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa renommée. Elle est à lui. Nous sommes simplement des serviteurs du glorieux roi, et simplement le servir devrait être notre cachet, devrait être notre tribu, devrait être notre cadeau. Simplement le servir est un privilège, et ce privilège, je ne le mérite pas, je ne le gagne pas, il m'est gracieusement offert par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu effectivement que Dieu veut déverser sur toi son onction pour servir, qu'il veut déverser sur toi son autorité pour que tu serves, veut déverser sur toi un mandat qui est précis par rapport à une œuvre qu'il a établie pour toi de toute éternité et pour laquelle il t'a effectivement appelé. Mais de surcroît à cela, lorsque tu dis que l'Esprit du Seigneur est sur toi, ben, tu décides effectivement de te soumettre, de t'abaisser et de rester au service humble devant Adonai. Donc, un appel à l'humilité, un appel à la soumission, et un appel à saisir que peu importe ce que tu fais, c'est une vocation que tu ne mérites pas, qu'il te donne gracieusement. Si on comprend cela, notre service va changer. Si on comprend ça, notre façon de servir va changer. Je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut être passif. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit s'auto-flageller pour avoir l'air très triste et avoir l'air très miséreux et très misérable pour obtenir la grâce de Dieu. Non, on ne peut pas feindre, on ne peut pas faire semblant de l'humilité, parce que Dieu voit au-delà des paroles qui sont prononcées, Dieu voit au-delà des gestes qui sont prononcés, qui sont accomplis, Dieu voit effectivement le pourquoi, le comment, l'attitude cachée derrière tes actions, tes paroles. Et si ces actions et ces paroles ne témoignent pas d'une humilité, tu es recalé. Si ce qui est à l'intérieur de toi ne témoigne pas d'une humilité profonde, tu ne peux pas être acceptable aux yeux de Dieu. Alors humilions-nous, tant qu'on en a le temps, humilions-nous déjà en ce début d'année pour servir adéquatement notre Seigneur. Alors c'était ce que nous avions pour vous ce matin. On va tout simplement prier et après ça on va saluer quelques personnes. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne nous laisses pas partir au travail sans nous équiper, sans nous donner tout ce qu'on a besoin pour faire l'œuvre. Nous ne mériterons jamais d'être à ton service. Nous ne mériterons jamais d'être appelés serviteurs, servantes du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est une grâce et nous voulons, Seigneur, nous en rappeler. Si tu vois, Seigneur, que l'orgueil commence à poindre chez nous, arrache-le, Seigneur. Arrache-le. Ne nous permets pas, Seigneur, de parler avec un souffle orgueilleux. Ne nous permets pas, Seigneur, d'agir avec un cœur orgueilleux. Ne nous permets pas, Seigneur, d'aller de l'avant avec une vie empreinte d'orgueil. La chute de l'orgueilleux, Seigneur, est dure. Un matin, on se réveille en ayant compris que tu ne prends pas plaisir à notre vie parce que notre vie est en remplie d'orgueil. Alors, Seigneur, nous voulons nous dépouiller de nous-mêmes et reconnaître que nous ne sommes que de simples serviteurs du roi des rois, que tu pourrais tout faire sans nous, que tu n'as foncièrement pas besoin de nous. Parce que si on se tait, tu es capable, Seigneur, de faire parler un âne, une ânesse, tu es capable de faire parler des pierres. Mais il te plaît, Seigneur, de partager l'avancement de ce royaume avec ma sœur, avec mon frère et avec moi. Alors je prie, Seigneur, que lorsque tu nous regardes, tu trouves effectivement d'humbles serviteurs, d'humbles servantes. Et Seigneur, je prie que nous entrions pleinement dans l'appel que tu as établi pour nos vies. Seigneur, nous avons tous une vocation devant toi, qui n'émane pas de nous, qui n'émane pas de notre droit à prétendre à un office, qui n'émane pas de notre atteinte d'un statut, d'un niveau quelconque, mais qui émane simplement de ta grâce. Tout ce que nous sommes est grâce. Tout ce que nous pouvons faire, c'est par ta grâce. Tous les objectifs que nous pourrions atteindre sont par ta grâce. Alors Seigneur, permets-nous de nous rappeler l'importance de te servir en parfaite, en pleine humilité. Nous t'avons prié, en sachant que tu entends, que tu réponds aux prières de tes enfants. Nous t'avons prié pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors, c'était ce que nous avions pour ce matin. Permettez-moi juste de remonter un peu pour saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. On est au-dessus de 40 connexions et tout à l'heure, quand on a salué les gens, on était autour de 30. Donc, je remonte. D'accord. Alors, bonjour à Diana. Pour ceux que j'ai déjà salué, je ne vous renomme pas. Mais bonjour à Diana, bonjour à Linda, bonjour à Immacula, bonjour à Yolaine, bonjour à Teresa, bonjour à Gaël, bonjour à Linda. Est-ce que je crois que je l'ai déjà nommée, mais je la renomme, oui. Bonjour à Claude et Daniel, bonjour à Sophie de Gazon, donc à Rosanie et Jean-Gilbert, bonjour à Indirène, bonjour à Natacha, son épouse, et à toute la petite famille, bonjour à Rosie, bonjour à Eric, Bonjour à Marcella. Oh, Marcella, je suis content que tu sois avec nous ce matin. Sois bénie. Bonjour à Juan Alberto. Bonjour à ma tante Claudie. Bonjour à qui d'autre? À Andrés et à Samantha. Je crois que c'est tout pour ce matin. Donc, j'espère que cet enseignement vous a été aussi propice. Rappelons-nous. Je ne saurais trop vous le rappeler et vous faire la recommandation. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Alors, quoi que nous fassions, quoi que ce soit quel que soit le niveau vers lequel le Seigneur peut nous élever, rappelons-nous d'être humbles dans notre approche, d'être doux, tendres dans notre approche, d'être remplis de compassion, toute simple, dans notre approche, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne prend pas plaisir aux orgueilleux. Alors faisons attention à ce que nous pensons être, faisons attention à ce que nous faisons pour être en accord avec la parole de Dieu. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Pour ceux qui ont besoin d'un petit remontant, oui, je vous rappelle, j'ai pas encore décidé, j'attends des nouvelles ce soir. Les gens me demandent, alors qu'est-ce qui se passe avec l'Église, comment vont se passer les choses. J'attends des nouvelles officielles de la santé publique, du gouvernement, pour savoir quelles sont les normes concernant les rassemblements. Je sais que il a été dit hier qu'effectivement les lieux de culte sont fermés, que les rassemblements n'ont lieu que pour des enterrements avec un maximum de 10 personnes. Ce que je veux savoir actuellement auprès de l'État civil, de la santé publique plutôt, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit quand même de se rassembler pour enregistrer les assemblées et les diffuser. On sait que les tournages de films, de télévision ont encore cours. On sait que bientôt le Canadien, pour l'équipe de hockey professionnelle de Montréal, va recommencer à jouer, donc sans public, mais ils vont pouvoir filmer et diffuser. Donc on est en train de voir au niveau des églises si on a le droit effectivement au moins de continuer à diffuser en direct depuis l'église ou s'il faut opter pour de nouveaux moyens. Donc j'attends ces informations-là pour pouvoir les communiquer officiellement. Ce qui est certain, c'est qu'on va trouver un moyen d'être l'église malgré le confinement. Je veux que ça soit très très clair pour vous tous. On va trouver un moyen de vous bénir, de vous servir, de faire avancer l'œuvre de Dieu, peu importe quelles sont les règles qui sont mises de l'avant. On ne va pas les contourner, on ne va pas entrer dans la rébellion civile, dans l'insoumission civile. On n'ira pas là en tant qu'Église. Je veux que ce soit très clair. Mais dans les paramètres qu'il nous donne, on va voir comment on peut être l'Église et faire l'Église et travailler en tant qu'Église malgré les circonstances qui sont un peu difficiles. Donc, dès que j'ai ces nouvelles-là, je convoque une réunion. Donc, ça va être soit ce soir ou demain lors de la prière le soir où je m'adresserai à la congrégation pour expliquer tout cela. Donc, restez à l'affût. J'afficherai sur la page Facebook de l'Église quand est-ce que cette mise au point va être présentée à la congrégation. D'ici là, continuez à prier pour nous, que le Seigneur nous guide, nous dirige dans comment on doit faire les choses et qu'on puisse prier pour nous aussi, qu'on puisse continuer à travailler pour Dieu, servir Dieu en toute humilité, nous aussi. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et chacun. Au revoir tout le monde. Et puis en passant, allez voir mon statut que j'ai publié tout à l'heure, un petit rendez-vous divin que Dieu m'a donné ce matin avant notre rencontre, notre bénédiction matinale. Et voilà pourquoi j'ai le cœur léger ce matin de voir Dieu à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.